Folie post-coloniale. Quatre enquêtes sur des parcours psychiatriques.
Une mise en récit sensible et réflexive de la recherche historique face à l'archive. Une série documentaire de l'équipe MADAF, Madness in Africa. Écrite par Gina Aitmedi et réalisée par Chloé Despax. Troisième épisode, par Paul Marquis. Un taxi pour Berouaghia. Algérie, été 1962.
Pas encore la plus grande fête et la victoire. C'est le 16 juillet 1962. Vive la LN et les FLN.
Vive la Dibondos.
Vive la Dibondos.
Vive la Dibondos.
Hôpital psychiatrique de Blida, département d'Alger. Dossier médical. Aline D, 28 ans. Célibataire ou épouse de, non renseigné. Profession, sans. Né le 16 décembre 1934 à Annecy. Domicilié à Médéa Café Glacier. Entré le 19 juillet 1962. Copie du certificat d'admission. Jeune femme européenne, vraisemblablement déséquilibrée constitutionnelle, ayant fait une bouffée délirante avec hallucination polysensorielle. Réactionnelle aux festivités de l'indépendance. À point éthylique. Cette malade a déjà subi une cure de désintoxication dans une clinique suisse. Doit être admise pour traitement dans un hôpital psychiatrique.
Paul, tu travailles sur l'histoire de la psychiatrie coloniale depuis plusieurs années. Comment est-ce que tu as découvert ce dossier d'Aline D?
J'ai découvert ce dossier dans le cadre de mon travail de thèse qui portait sur l'histoire de la psychiatrie coloniale en Algérie. Aline D est admise au sein de l'hôpital psychiatrique de Blida, autrement dit l'HPB, qui ouvre ses portes en 1933. Et au moment de son admission, à l'été 1962, l'HPB est encore l'un des deux seuls établissements psychiatriques publics de toute l'Algérie nouvellement indépendante. Au cours de mes recherches, j'ai eu la chance d'accéder aux milliers de dossiers de patients qui sont admis au sein de l'HPB entre les années 30 et les années 60. Et le dossier d'Aline D faisait partie de ce large corpus de dossiers.
Pourquoi ce dossier en particulier a-t-il retenu ton attention ?
La trajectoire de cette jeune femme, qui est partiellement retracée dans son dossier médical, a fait résonner quelque chose chez moi. Bien que les dossiers se présentent sous une forme très stéréotypée, ils sont souvent porteurs d'une charge émotionnelle et affective très forte, auxquelles les historiennes et historiens du social sont vraiment sensibles. Il y a quelque chose de tragique, en fait, dans la trajectoire de cette jeune femme qui est prise dans les derniers soubresauts de la guerre d'indépendance algérienne.
Au moment de son admission, on entend ce diagnostic de déséquilibré constitutionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi il renvoie ?
Le libellé renvoie à une théorie qui est formulée à la fin du 19e siècle et qu'on pourrait désigner comme la théorie de la prédisposition. C'est une théorie qui consiste à considérer que certains individus seraient prédisposés à la maladie mentale du fait de leur terrain biologique et psychique. Et dans le cas d'Aline D, le médecin qui est en charge de son diagnostic d'admission identifie l'alcoolisme comme un facteur prédisposant à la maladie mentale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, il fait apparaître les festivités de l'indépendance comme un élément déclencheur. Et en fait, il y a déjà une forme de hiérarchie entre d'un côté l'alcoolisme qui serait l'élément prédisposant et les festivités qui ne seraient qu'un élément déclencheur. Cette formulation diagnostique telle qu'elle est énoncée là, d'une certaine manière, fait peser la responsabilité de la maladie sur la patiente en question, sur Aline D.
Entretien avec la malade. 31 juillet 1962. Malade, allongée sur le canapé,
médecin assise à côté d'elle.
Je suis née à Annecy en 1934. Nous sommes 6 frères et sœurs, je suis la troisième. Mon préféré, Claude, il fait son service militaire, il a rempli. Mon père est très sévère, il a été dans le camp de concentration de Buchenwald pendant 3 ans. Nous hébergeons des gars de la résistance.
Un souvenir pénible de cette époque?
J'avais 8 ans et...
J'ai peur la nuit.
J'ai encore peur la nuit.
Nous arrivons à apprendre qu'un garçon a tenté de la violenter, délivré par les résistants. Entre parenthèses, souvenir confus.
Paul, dans quel cadre se déroule l'échange qui est mis en scène dans la séquence précédente ?
C'est un extrait de l'entretien qui est mené entre la psychiatre Suzanne Miserlitsch et la patiente Aline D. au moment de son admission en juillet 62. Et c'est donc l'extrait tel qu'il est retranscrit dans le dossier. Tous les patients et patientes, quand ils sont admis à l'hôpital psychiatrique de Blida, sont soumis à un ou plusieurs entretiens qui sont menés par un ou une psychiatre ou l'un de leurs internes. Et les questions qui sont posées au moment de ces entretiens ou de cet entretien ont pour vocation à retracer la trajectoire de la malade afin de déterminer ce qui pourrait jouer dans le déclenchement de la maladie. Dans le vocabulaire psychiatrique, on parle d'anamnèse pour qualifier ce processus.
Et les entretiens d'admission sont-ils systématiquement et intégralement retranscrits dans les dossiers de patients ?
À ce niveau, les situations sont extrêmement variables d'un dossier à l'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les retranscriptions intégrales sont très rares. Généralement, ce que je retrouve dans les dossiers, c'est un résumé de quelques lignes qui reprend les principaux éléments de l'entretien avec ce que le psychiatre ou la psychiatre considère comme signifiant. Ce qu'on pourrait dire en définitive, c'est que tous les éléments qui sont retranscrits dans le dossier sont toujours filtrés par la psychiatre et qu'en fait, on a une retranscription qui est à la fois partielle et partiale de l'entretien qui a été mené entre les deux femmes.
Selon toi, qu'est-ce que cette retranscription laisse finalement transparaître de l'entretien entre Aline D. et la psychiatre ?
Contrairement au sociologue, l'historien ne peut pas accéder de visu à la scène qu'il étudie. Il est toujours conditionné à l'archive sur laquelle il travaille. Évidemment, cette archive, ce dossier, ne donne que partiellement à voir les échanges, les interactions qu'il y a entre la psychiatre et la malade. Mais on a quand même une idée de ce qui se joue entre elles. En fait, d'un côté, on a la psychiatre, dont l'enjeu est de mettre en confiance la malade pour obtenir le maximum d'informations sur sa vie et sur sa trajectoire. Et puis de l'autre côté, on a une patiente qui oscille entre des postures de réticence. En fait, elle est placée dans une position où elle doit arbitrer entre ce qu'elle peut, veut ou doit dire à la psychiatre et ce qu'elle souhaite conserver pour elle pour maintenir son intégrité morale et psychique.
Vous vous êtes fait soigner en Suisse ? Une cure contre l'alcool ?
Oui, pendant 3 semaines. J'aime bien l'apéritif, le champagne.
Et après votre divorce ?
Mon père m'a reprise, mais il m'interdisait de sortir. Je le faisais quand même. Il m'a roué de coups, alors je suis partie sans dire au revoir à personne.
Où alliez-vous ? Connaissiez-vous quelqu'un en Algérie ?
Une dame d'Algérie au café m'a prêté le journal d'Alger. J'ai lu une petite annonce barmaid demandée d'urgence. Je suis partie, sans écrire.
En quelle année ?
En 1960. Je ne sais pas. J'étais déjà ici pour les barricades. J'y étais. Je connais très bien la Gaillarde, sa femme. Je leur portais du café. Ça m'a valu des histoires avec la police.
À Alger, elle a successivement travaillé dans plusieurs bars, dont certains dotés de chambres de passe, les auraient quittés aussitôt avisés des services qu'on attendait d'elle, c'est le seul point de l'entretien dont la véracité est suspecte.
Les violences et les stéréotypes de genre sont très présents dans le dossier d'Alindé.
Oui, la trajectoire d'Alindé est ponctuée de violences de genre qui pèsent sur son itinéraire. On peut penser à l'agression qu'elle subit quand elle est enfant. On peut penser aux accusations de sa belle-mère d'être une femme dénaturée parce qu'elle s'occuperait mal de ses enfants. On peut aussi penser aux violences de son père au moment où elle retourne chez lui après avoir divorcé. Et le fait d'être une femme n'exonère pas non plus la psychiatre de stéréotypes de genre et de stéréotypes moraux sur la trajectoire d'Alindé. Elle reprend aussi cette question de l'alcoolisme sur laquelle elle interroge la jeune femme. Elle évoque aussi des soupçons de prostitution et de frivolité. En fait, on voit bien à quel point toute la vie de cette jeune femme, toute sa trajectoire, est relue à l'aune du déséquilibre constitutionnel dont elle serait supposément atteinte. D'une certaine manière, on pourrait dire que le passé de la jeune femme devient son passif psychiatrique.
Comment ces violences de genre s'articulent-elles aux violences de guerre auxquelles Alindé fait face après son installation en Algérie ?
Le point commun entre ces violences, qu'elles soient de genre ou de guerre, est qu'elles disparaissent des différents diagnostics qui ponctuent l'hospitalisation d'Alindé. En quelque sorte, l'anamnèse se traduit par une forme de dépolitisation de la vie de la patiente. Alindé arrive pourtant en pleine guerre d'indépendance algérienne, à un moment où certains Européens commencent à faire le trajet en sens inverse. Et elle se trouve mêlée à un événement marquant du conflit, la Semaine des Barricades.
Quelques mots sur l'événement.
La Semaine des Barricades est un mouvement insurrectionnel qui se déroule du 24 janvier au 1er février 1960. C'est un événement qui se produit dans un contexte très particulier, qui est celui de la politique d'autodétermination qui a été engagée quelques mois auparavant par le général de Gaulle. Et cette politique a suscité un profond mécontentement chez une partie de la population européenne qui est partisane du maintien de l'Algérie française puisqu'elle risque, à terme, de déboucher sur l'indépendance de l'Algérie. Et donc, au cours de la semaine en question, de violents affrontements opposent à Alger, d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre les insurgés qui bénéficient de l'implication et du soutien d'une partie de l'armée. Le député Pierre Lagaillarde, à qui Alindé dit avoir servi le café, est l'un des chefs de file de ce mouvement insurrectionnel, qui éclate donc en janvier 1960. Il fonde par la suite l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, qui est une organisation clandestine qui s'oppose très violemment à l'indépendance de l'Algérie.
Dans la nuit d'Alger, ce soir de vendredi, tout le monde attend, aux barricades comme dans les postes de garde. Insurgés et militaires, tout le monde attend d'une même attente le discours que va prononcer le général de Gaulle. De Gaulle parle.
Certains à Alger sont entrés en insurrection. Ils ont tiré sur le service d'ordre. Ils ont tué de bons soldats. Ils se dressent en armes contre l'autorité de la France. Je dis à tous les soldats français, votre mission ne comporte aucune équivoque et aucune interprétation. C'est moi qui porte le destin du pays. Tous les soldats français doivent donc m'obéir.
La femme de son patron et amant est rapatriée en France depuis 2 mois avec sa fille de 14 ans. L'épouse écrit à son mari pour le sommet de se séparer d'Alindé. Faute de quoi, il ne reverrait plus sa fille. La veille de son admission chez nous, nouvelle tentative de suicide, Alimenoctal.
Mon ami adore sa fille, il ne voudra jamais la perdre, il renoncera plutôt à moi. Je ne me rappelle pas du tout ce que j'ai fait après. Un taxi pour Berouadja. Je me suis retrouvée ici.
Un taxi pour Berouadja. Algérie, été 1962. Une enquête historique menée par Paul Marquis. Réalisation, prise de son et montage, Chloé Despax. Dans le rôle de la psychiatre, Laurie Belanca. La patiente, Laurie Hébert. Aline Des Enfants, Marie-Lou Flayac. Dans le rôle de l'institution, Jean-Claude Dumas. Entretien réalisé par Gina Aitmedi. Aide à l'écriture, Isabelle Azac. Mixage, Jean-Baptiste Imbert. Produit par le projet de recherche MADAF, Madness in Africa. Financé par le Conseil européen de la recherche. Une coproduction, Radio Grenouille, Studio Euphonia.